Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 184, et aujourd'hui, on va parler de santé mentale, plus spécifiquement de dépression chez l'entrepreneur. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en grande forme. Moi, de mon côté, on dirait que l'énergie de la rentrée, je sais pas, je réfléchissais à ça cette semaine où, bon, il y a eu quand même beaucoup de chamboulements. Ma fille a commencé la maternelle cette année et puis en même temps, j'ai senti un retour d'énergie que j'avais pas eu depuis, je dirais, un bon 6 mois. Et je me demande si c'est lié avec le changement de température, avec un cycle un peu plus productif avant l'hibernation de l'hiver. Je suis en train de vraiment observer mes cycles d'énergie saisonniers parce que, j'ai assez de données maintenant. Je sens depuis au moins 4-5 ans à être très intentionnelle par rapport à ma gestion d'énergie, même si je fais énormément de, je dirais, d'erreurs, mais bon, c'est pas vraiment des erreurs, c'est juste comme, je me rappelais pas que je devais pas faire de lancement au mois de janvier ou des choses comme ça. Mais je trouvais ça intéressant de voir aussi comment, pour plusieurs, quand septembre arrive, les vacances sont passées. Je pense pas que c'est juste une question d'être sur le calendrier scolaire, ou peut-être ce l'est, mais il y a une recrudescence de focus, une recrudescence énergétique dans mon cas, et j'ai l'impression que je suis pas la seule à passer à travers ça. Et c'est intéressant de se questionner là-dessus, ou du moins d'observer, ou de juste prendre conscience de ce qui se passe à ce niveau-là, qui est saisonnier, surtout en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est la santé mentale, et plus spécifiquement la dépression chez les entrepreneurs. J'avais envie de parler de cette thématique parce que j'ai traversé un épisode dépressif dans les 6 derniers mois, justement, qui s'apparentait à un burn-out, mais qui a été plus diagnostiqué comme dépression. Sachant que, bon, j'ai un historique aussi avec la dépression, j'ai un historique avec la dysthymie, c'est une dépression chronique qui fait partie de ma réalité depuis de nombreuses années, depuis plus d'une vingtaine d'années, si ne serait que depuis toute ma vie. Et donc, en tant que dépressive, on ne veut pas rentrer dans un épisode dépressif parce qu'on sait ce que ça implique. Mais pour moi, c'est sûr que j'avais reconnu les signaux. J'avais reconnu les pré-signaux. J'avais vu dans quelle direction ça s'en allait. J'ai essayé de mettre en place certains systèmes. J'ai essayé d'aller chercher de l'aide, notamment au niveau de mon entreprise, pour déléguer, des choses comme ça. Ça n'a pas nécessairement fonctionné comme prévu, mais ça a été un peu inévitable. Je suis rentrée dans cet épisode dépressif qui est aussi lié, pas juste à mon entreprise, mais plutôt à des choses qui se passaient au niveau personnel, des choses qui se passent aussi au niveau, bon, de mon âge, de mon cycle de vie général. Donc, je démonise pas ici la dépression, je démonise pas le burn-out, je dis pas que c'est quelque chose que j'aurais pu nécessairement éviter avec une autre façon de vivre. Et aussi, je pense qu'il y a des apprentissages à travers la dépression, les états dépressifs. Il y a une intelligence à travers l'état dépressif. Et plus je travaille avec le corps, plus je travaille avec le processus de unshaming, donc enlever la honte autour de certains symptômes qu'on pourrait avoir ou certaines façons de fonctionner, plus je suis capable de voir aussi cet épisode dépressif ou cet état dépressif comme quelque chose qui faisait partie de la nature, de ma nature, et que je ne vais pas démoniser dans mon historique ou dans la conversation qu'on va avoir ici. Je suis rentrée dans un deep dive un peu sur l'histoire de la dépression, puis c'était intéressant pour moi de percevoir à quel point dans le dernier siècle, hein, le 20e siècle, beaucoup, la dépression a été justement médicalisée ou du moins pathologisée, alors que c'est un état qui est connu depuis l'Antiquité, qui était associé bien souvent à des personnalités plus créatives ou artistiques ou philosophiques ou spirituelles, et qui, même si ça s'accompagne de souffrances émotionnelles et psychologiques, et qu'il y a des choses qu'on peut faire, hein, même dans l'Antiquité, il y avait des cures qui impliquaient notamment de faire un voyage, ou de faire plus d'exercices, ou de passer du temps à l'extérieur ou dans la nature. Donc il y avait des cures comme ça pour ces états-là, qui ne sont pas simplement le propre de notre réalité actuelle, de notre période historique actuelle, mais qui existent depuis des millénaires chez l'être humain. C'est vraiment avec la venue de la psychanalyse au 19e siècle que là, on a commencé à pathologiser, à médicaliser aussi la dépression. Notamment aujourd'hui, c'est avec des processus chimiques qui agissent directement dans le cerveau. Et je tiens à dire à ce point-ci dans l'épisode que je n'ai absolument rien contre l'utilisation de processus chimiques ou de médicaments pour réduire les effets ou pour aider à réduire la souffrance qui vient avec les états dépressifs. Tout ce que je dis ici, donc j'ai rien contre les antidépresseurs, contre les personnes qui prennent des antidépresseurs, vous êtes les souveraines de votre corps, de la façon dont vous gérez aussi votre santé, et puis ici, il y a genre zéro honte, zéro shame autour de ça. Je fais juste parler ici d'une observation qui se retrouve bien souvent dans d'autres aspects de notre existence naturelle. Puis là, je pense à la médicalisation des naissances, par exemple, qui a pris quelque chose, dans le fond, qui n'était pas une pathologie, comme la grossesse, et qui l'a transformé dans l'imaginaire collectif en quelque chose de dangereux. Même chose pour la dépression, c'est quelque chose de naturel, ça s'accompagne de souffrances, de douleur, de la même façon que l'accouchement s'accompagne de souffrance et de douleur. Il y a des choses qu'on peut faire pour alléger tout ça. Il y a des choses qui sont personnelles et individuelles. Il y a des choses qui sont systémiques. Et je pense que ce qu'on vit en ce moment avec la recrudescence de problèmes de santé mentale autour de la dépression puis du burn-out, c'est à la fois un problème... je dis pas c'est à la fois. C'est un problème systémique autour notamment de notre gestion du temps, de notre gestion du travail. J'en ai parlé dans un épisode qui s'appelle « Les limites du self-care entrepreneurial ». Je vous invite à aller écouter cet épisode-là pour ma vision sur le rôle du système dans la création de pression productiviste sur les humains et sur comment est-ce que l'individualisme nous a amenés à voir dans le self-care notre responsabilité et notre salvation dans un système qui est ultimement exploitatif et extractif de nos ressources énergie et de notre santé. Bref, donc ça c'est dans l'autre épisode, mais aujourd'hui je voulais parler spécifiquement de dépression parce que c'est un problème de santé mentale dans le milieu entrepreneurial, puis on peut pas le nier. Hein, la dépression, le burn-out, l'anxiété font partie du lot de beaucoup d'entre nous, si bien que en 2023, donc il y a eu un sondage de la BDC qui a été réalisé ici au Québec auprès de 1500 propriétaires de PME et 45% des répondants ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale, ce qui est une hausse de l'année précédente, une hausse de 7 points de l'année précédente. Puis là, 45%, on s'approche de la moitié des entrepreneurs vivraient avec ou considèrent avoir des problèmes de santé mentale. À cela, dans la même recherche, le même sondage, le pourcentage d'entrepreneurs qui sont satisfaits tous les jours de leur santé mentale a diminué pour sa part, passant de 72 à 64. Donc, puis je trouve ça intéressant parce que c'est très subjectif, hein, d'être satisfait de sa santé mentale, ça veut dire « ok, je suis capable de gérer », probablement, c'est comme ça que moi je l'entends. Et selon une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, 66% des entrepreneurs seraient sur le bord de l'épuisement professionnel. Le burn-out étant quelque chose qui touche particulièrement les entrepreneurs qui vivent alors des sentiments de fatigue, de déprime, difficulté à garder un équilibre entre le travail et leur vie privée, et ça nuit régulièrement à leur capacité à travailler. Et c'est pas étonnant, mais les femmes et souvent les chefs d'entreprise qui sont un peu plus jeunes sont particulièrement touchés. Je pense que dans le contexte des femmes, il faut qu'on nomme aussi qu'en plus de la charge et le risque et tout ce qui vient avec l'entrepreneuriat, ben, on ajoute la charge mentale, souvent d'être le chef de ce qui se passe à la maison. T'sais. Donc, il y a une charge accrue aussi en termes de leur énergie puis leur capacité. Donc, naturellement, c'est un peu quand même inquiétant de voir que dans une strate de la population qui augmente, donc il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui voient dans l'entrepreneuriat une alternative ou l'alternative à un salariat où ils n'ont pas nécessairement trouvé chaussures à leurs pieds. Et je pense qu'il y a énormément encore de stigmatisation autour des problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs. Puis je pense que dans la conversation que j'avais faite sur le self-care, une des choses qui me saute vraiment aux yeux, c'est à quel point on met beaucoup la pression sur les entrepreneurs de s'occuper de leur mental, s'occuper de leur mindset, s'occuper de leur santé pour être des bons entrepreneurs à succès. Et on oublie par là aussi qu'il y a des choses qui font partie du système puis qu'on pourrait faire tout ce qu'on a. Tu sais, là, maintenant, en plus de la charge, de la charge mentale de l'entrepreneuriat, de la charge mentale de s'occuper du foyer, on ajoute à ça la charge mentale de devoir être notre propre gardien, d'être notre propre médecin, de trouver nos secrets pour perdurer sur le long terme, ce qui est la réalité, mais aussi, tu sais, il faut quand même voir la réalité comme elle est, que c'est aussi un problème systémique. Donc, il y a comme un genre de gaslighting généralisé, selon moi. Puis là, quand je veux dire gaslighting, ça veut dire que on nie de façon généralisée qu'il y a certains problèmes, notamment en disant que l'économie ou l'inflation, ça nous affecte pas, ça affecte juste les entrepreneurs fragiles. Alors que j'avais un appel récemment avec une personne qui, j'ai dit oui, tu sais, c'est pas toujours évident de rentrer dans un marché saturé comme le marché du coaching, surtout dans la situation économique actuelle. Parce que, écoutez, c'est pas, je suis pas en train de dire quelque chose de complètement inventé. Oui, l'industrie du bien-être et du coaching et du self-care et de l'alignement et de blablabla augmente en volume. Et c'est une réalité aussi qu'avec l'inflation, les gens ont moins de cash flow. Ils ont moins de capacité à dépenser dans le quotidien. Fait que de dire que l'inflation, c'est juste une question de mindset, comment tu vas t'en sortir et tout ça, moi, je trouve que c'est une façon de faire un peu du gaslighting autour d'une réalité qui a bel et bien lieu et qui a des effets réelle sur les gens. Est-ce que ça veut dire qu'à cause de ça, on devrait baisser les bras, puis pas se lancer, puis accepter notre situation problématique, puis des choses de même? Non, ça veut juste dire qu'il y a une pression supplémentaire qui est faite en ce moment sur le système at large, incluant sur le système, nos systèmes de santé et nos systèmes de santé mentale. Et à travers ce gaslighting-là, il y a cette idée que quand t'es coach, quand t'es entrepreneur, il faut que tu restes high vibe, il faut que tu maintiennes genre l'énergie pour tout le monde autour de toi, que... Je prends une petite gorgée, hein. Que si tu es low vibe, c'est à cause de ça que les gens viennent pas acheter tes produits, nanana. Fait que personne veut... dire comme « Hey, allô, genre, je vis avec la dépression. » Non, il faut que je show up sur les réseaux sociaux, il faut que je show up à mes clients, il faut que je show up dans mon habit de clown, de cheerleader, let's go, on va aller, genre, crusher nos objectifs. Et je trouve qu'à travers ça, ben on n'a pas justement les conversations autour de la dépression, autour de problématiques de santé mentale qu'on pourrait ressentir à travers notre expérience. Cette stigmatisation, elle est surtout présente dans les domaines du soin, puis qui sont majoritairement en charge des domaines du soin, c'est les femmes. Puis quand je parle de domaines du soin, j'inclus notamment le coaching, les coachings énergétiques, le côté de la spiritualité, parce que c'est des domaines qui sont traditionnellement dévalués comme étant le propre des femmes. Et dans ces domaines-là, c'est encore plus tabou, selon moi, de admettre ou de parler ou d'échanger ou même de montrer une réalité où on n'est pas parfait. Hein? On flanche, on est faible. Hein? Toutes des connotations très négatives et subjectives de l'état dépressif. Il y a... Avec ce gaslighting, avec cette stigmatisation, ça nous amène à nier aussi, parce que justement, il n'y a pas assez de conversations sur de quoi ça a l'air, la dépression en entrepreneuriat. De quoi ça a l'air, traverser une dépression alors que tu ne peux pas nécessairement fermer ta business puis partir en congé maladie. Parce que bon, une des choses qui est vraiment inquiétante, c'est que tu peux avoir une assurance invalidité, tu peux aller... tu peux payer, moi je paye pour une, mais dès que par exemple tu es diagnostiqué avec une dépression ou avec un burn-out et que tu demandes les bénéfices de l'assurance parce que tu peux pas travailler pendant un certain temps, ben ça te barre de la majorité des assurances à venir. Fait que tu sais, c'est comme, t'as le droit à un burn-out dans ta vie. Genre je ris, mais c'est quasiment ça, tu sais, il y a cette... question de si t'es malade après ça, ben, you're on your own. Donc, personne veut montrer justement ou arriver à ce stade où ils vont non seulement avoir le soutien pour ce qui se passe, pour leur souffrance émotionnelle et psychologique à travers la dépression, et elles vont générer ou elles vont cultiver de la honte, ces personnes-là, de s'être rendues là. Ou d'avoir créé les conditions pour en arriver là, parce que si elles avaient bien posé leurs limites, si elles avaient travaillé leur mindset, été high vibe, avoir un écosystème d'offres qui allait plus les soutenir, nanani nanana, ben ça serait pas arrivé cette dépression-là. Puis c'est pour ça que je voulais commencer l'épisode en normalisant l'état dépressif comme quelque chose qui existait bien avant dans notre état actuel, notre histoire, notre moment historique, et rappeler que c'est pas quelque chose qu'on... C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on n'a pas été assez performant ou whatever qu'on en arrive là. Il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir le burn-out, pour prévenir la dépression, qui sont pas la même chose, by the way. Je les mets un peu dans le même panier, mais c'est pas la même chose, c'est pas diagnostiqué de la même façon, ça a pas nécessairement les mêmes effets. Puis j'ai d'autres épisodes que je vais mettre en en lien ici, si vous voulez aller explorer un peu cette thématique-là. Mais je les mets ensemble parce que, à quelque part, je pense qu'ils sont culturellement mis ensemble ou culturellement compris comme étant la même chose. Donc, avec ça, tu sais, avec cette honte autour du fait qu'on a probablement créé notre réalité et puis que, tu sais, c'est tout dans ta tête. Si tu travailles, genre, sur tes pensées négatives, tu vas être capable de les éradiquer et puis tu vas retrouver l'abondance financière et des choses comme ça parce que l'inflation, ça n'existe pas. Quand tu es un entrepreneur à succès, tu es capable, genre, de traverser tout ça, hein? Ça crée de la honte, ça crée aussi de l'isolement. Les gens ne veulent pas en parler, les gens ne veulent pas se montrer et même que des fois, ils vont s'exclure de certaines communautés dans lesquelles elles sont parce qu'elles ne veulent pas être low vibe, elles ne veulent pas amener leur négativité avec elles. Et il n'y a pas beaucoup de ressources au niveau systémique pour aider les entrepreneurs qui traversent ça. T'sais, au moins, quand tu es salarié, ben t'as de l'aide pour aller chercher de l'aide psychologique, t'as souvent des ressources à l'interne qui peuvent t'aiguiller. Il y a des personnes aussi qui sont là pour reconnaître ces signaux-là, puis idéalement, je dis pas que c'est toujours le cas, puis que ça se passe comme ça en entreprise nécessairement, c'est davantage considéré comme faisant partie de la réalité, même si, moi je trouve qu'il y a énormément, par exemple, si je pense à un de mes anciens employeurs, je vois le nombre de personnes qui sont en congé maladie à un instant T, et je trouve ça quand même, fou, là, parce que ça tombe comme des mouches, là. T'sais, c'est un après l'autre, avec des arrêts maladie répétés. Puis, bon, c'est pas toujours pour la dépression, mais souvent ça l'est, et à durée indéterminée souvent, avec tout un tas de conditions, là. Des fois, il y a du harcèlement qui est mêlé là-dedans, des fois, il y a, il y a des problèmes de maladie chronique, et puis ça, c'est très mal compris, et je dirais même très mal traité au niveau holistique. Donc, sur quoi... Bon, ayant dit tout ça, je voulais normaliser la conversation autour de la dépression un peu. Je voulais vous donner un peu mon aperçu de ma perspective aussi de vivre à travers des dépressions. Et le fait que, bon, j'ai quand même une certaine expérience avec la dépression, avec le fait d'être dépressive et de devoir quand même maintenir... une certaine activité, un certain tonus, momentum dans l'entreprise. C'est pas la première fois que ça m'arrive, puis un des moments où j'ai eu une grosse dépression aussi, c'était quand j'étais à la maîtrise, et puis j'ai quand même fini ma maîtrise en 2 ans, j'ai quand même maintenu mes emplois à temps partiel pendant ce temps-là. Donc j'ai une certaine expérience de... Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de moi pendant cette période-là? Et sachant tout cela, à chaque fois, on plonge quand même dans... on plonge quand même dans le désespoir de la dépression. On doit quand même faire le travail ou on doit quand même traverser cet état-là. On ne peut pas l'éviter. Une fois qu'il est enclenché, on rentre dans un processus d'exploration. Puis tout ce qui reste, c'est un peu d'avoir confiance que ça va passer. On ne sait pas combien de temps ça va prendre exactement. Tout ce qu'on peut faire, c'est justement de travailler sur notre quotidien, sur nos habitudes au quotidien. Et d'être d'avoir beaucoup, beaucoup de compassion envers soi-même, surtout si on est capable de reconnaître qu'on passe à travers ça et que parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on ne peut pas non plus tout lâcher quand on n'est pas dans un moment optimal. Fait que je pense que c'est ici l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on continue à travailler dans notre entreprise quand on passe à travers un moment dépressif et après ça, ben comment est-ce qu'on... on essaye de travailler au niveau systémique dans notre entreprise pour avoir un espace pour accueillir ces états-là quand ils arrivent, s'ils arrivent, un peu comme, OK, on a notre petite salle de repos qui a été spécifiquement identifiée pour les personnes qui ont besoin de s'isoler ou dadada. Ben, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on crée ce safe space à l'intérieur de notre entreprise pour que si on passe à travers un moment difficile, on est dans un creux dépressif, on est quand même accueilli, reconnu, on n'est pas gaslighté, on n'est pas nié dans cette expérience, sans que ce soit nécessairement quelque chose qu'on fait très publiquement. Donc, dans mon cas à moi, passer à travers un épisode dépressif, c'est sûr que ça demande que je sois très focus sur mes routines de vie, sur mon hygiène de vie. Ça passe par s'assurer que je mange bien, que je mange des vitamines, surtout si c'est dans une dépression saisonnière comme l'hiver quand il y a moins de soleil. Donc ça en fait partie, avoir la vitamine D, sortir de l'air frais, tu sais, toutes les choses, encore une fois, qui sont intuitives. Faire de l'exercice, faire du mouvement tous les jours, ça fait partie de mon hygiène de vie, surtout en tant que personne avec de la dysthymie ou avec des tendances dépressives. Donc, la nourriture saine, moi, ça me coûte beaucoup plus cher, mais nous, on a décidé, puis même qu'il faut souvent que je convainque mon mari de continuer dans cette voie-là, de focusser sur de la nourriture bio, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a nécessairement les privilèges ou la capacité financière de faire ça. Une fois par mois, j'ai un CEO day, donc je vais au spa, ou je prends un massage, ou je travaille pas. J'essaye de suivre mon cycle menstruel, de m'assurer que, ah, OK, je suis beaucoup plus sensible ces temps-ci, au lieu d'en faire un problème, de voir comme, OK, je suis où dans mon cycle menstruel, dans mon cycle hormonal, comment est-ce que je peux ralentir à certains moments du cycle pour pouvoir me permettre des moments de régénérescence, parce que, dans le fond, la dépression, comment je l'expérimente, c'est vraiment une problématique d'énergie et de focus. Et naturellement, ben, ça vient avec souvent des moments de grande négativité. C'est comme si on rentrait dans une illusion, dans un cauchemar un peu. Genre, c'est comme si soudainement la réalité prenait... On rentrait dans une autre dimension de la réalité qui est une dimension très anxiolytique. Ça peut être... Moi, ça avait beaucoup commencé avec les événements du 7 octobre, avec le génocide en Palestine, avec la prise d'otages. Donc, il y a des triggers comme ça, il y a des forces comme ça qui vont aller générer ces moments d'intensité. Et des fois, ben c'est juste, tu sais, c'est de l'overstimulation, c'est de la surstimulation, c'est de la hyper-sensibilité qui embarque, c'est des chocs émotionnels qui ont eu lieu, des traumas qui sont ravivés. Fait qu'il y a comme un petit cocktail ici de choses qui peuvent avoir lieu, et donc... c'est difficile parfois de tout réguler en même temps sans se dissocier, et ces choses ont besoin parfois d'être processées, ont besoin d'être traversées, ont besoin d'être intégrées, mais on peut pas toutes les prendre en même temps. Donc c'est pour ça que la dépression s'installe sur un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, parce que à quelque part, il faut laisser à la psyché, il faut laisser au corps le temps d'intégrer les différentes choses, les différents éléments traumatiques qui l'ont peut-être sorti de son cycle régulier de gestion énergétique, de productivité ou de... pas de productivité, mais de focus. Donc avec ça, bon, j'ai parlé de l'hygiène de vie, ça c'est essentiel autant pour la prévention que pendant ces moments-là. Essayer de respecter son énergie cyclique, comprendre qu'on est dans un état d'énergie réduit, qu'on a une capacité réduite parce que, encore une fois, selon mon expérience, c'est parce qu'on est en train de process beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, c'est comme si le monde extérieur prenait un petit ralentissement pendant qu'on investit de l'énergie un peu au niveau inconscient avec des choses qui se passent à l'intérieur. Okay? Puis il faut respecter ça. On envoie l'énergie vers l'intérieur ou vers l'extérieur, on a le même niveau d'énergie. Là, on ne peut pas inventer de l'énergie. Il faut que l'énergie se régénère. Puis cette énergie, bien, elle se régénère avec de la bonne nourriture, avec du soleil, avec un changement d'environnement souvent... retrouver du plaisir, replonger dans le corps, être capable de ressentir aussi différemment notre réalité. L'autre chose, naturellement, ben, c'est de pouvoir s'entourer, de chercher de l'aide, de parler de ses difficultés. Hein? Puis là, je ne dis pas nécessairement d'en parler avec toute l'Internet. Ça peut être d'avoir des confidents. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie avec qui j'ai pu en parler, même si c'est pas facile de traverser une dépression dans un couple. Hein? C'est pas facile de demander cette aide-là, surtout si vous êtes... vous n'avez pas nécessairement un grand système de support dans la communauté ou des choses comme ça, parce que ça met une charge dans le couple, puis ça peut générer de la honte et de la culpabilité de la personne qui est dépressive, et aussi du overwhelm de la personne qui doit accompagner la personne dépressive. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là qui est difficile. Donc, oui, parler de ses difficultés, avoir des partenaires, comprendre aussi c'est quoi de partager un moment dépressif avec quelqu'un qui traverse ça, même si pendant qu'on est dans notre état dépressif, c'est pas le moment de commencer à se soucier de comment chaque personne gère ses émotions, quel type de charge on met sur chaque personne et tout ça. T'sais, je veux dire, oui, on le conscientise, je pense qu'on en est tous conscientes, mais aussi... il faut accepter que là, c'est nous qui avons... on est dans un état un peu plus de détresse et on a besoin d'aide. Et donc, cette aide, il faut être capable d'aller la chercher soit autour de l'aide psychologique, même si c'est pas toujours évident. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une bonne psy. C'est pas nécessairement de trouver un psy, des fois, le problème. C'est de trouver un psy qui va nous aider à... process, à traverser ces événements-là sans nécessairement juste nous médicaliser, parce que souvent c'est ça qui va arriver, c'est comme, ben, voici des antidépresseurs et puis reviens me voir dans... Ben, les petits font pas ça, mais tu sais, les médecins vont souvent dire reviens me voir dans 4 semaines ou nanana, puis après ça, ben, c'est de trouver une méthode de psychothérapie qui nous convient, avec une personne qui nous convient, et travailler sur des choses qu'on est capable de travailler. Moi, personnellement, je m'entoure aussi beaucoup de coachs. Mes épisodes dépressifs sont souvent des épisodes où j'ai le plus besoin d'accompagnement spirituel aussi. Je lis beaucoup à propos de choses qui m'intéressent, comme par exemple l'état de conscience, la spiritualité, les dimensions. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. J'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'entends aussi que certains psychotropes sont en train d'être étudiés pour voir comment ça peut aider à soigner ou à alléger les symptômes de dépression. Chose intéressante à suivre dans les prochaines années. Et cette aide-là aussi, c'est pas juste... Bon, c'est nos amis et tout ça, mais c'est aussi, selon moi, des coachs, des personnes qui sont inspirantes, de faire vraiment un ménage de qu'est-ce qu'il y a dans notre environnement. Est-ce qu'on a besoin de faire un ménage aussi peut-être de notre bureau, faire un ménage de notre desktop, de vraiment s'alléger, de prendre des moments pour s'alléger, pour enlever le surplus et aller choisir intentionnellement des personnes qui nous inspirent. Fait que, tu sais, ça peut être faire le ménage aussi de notre Instagram. Je sais que durant mon dernier épisode dépressif, j'ai unfollow, je pense, 300 personnes. J'ai vraiment fait un gros ménage de qui je suivais sur mes réseaux sociaux. J'ai été très intentionnelle sur qui je voulais continuer à voir sur mes réseaux sociaux. Bref, fait qu'il y a ça qui se passe, une reconfiguration qui se passe dans les moments dépressifs, puis je trouve ça intéressant. Et un autre espace où moi je vais chercher beaucoup d'énergie, c'est à travers d'autres cercles d'entrepreneurs, comme des masterminds dans lesquels je fais partie, des mentorships, des memberships, où j'ai pas nécessairement besoin de parler de tout ce qui se passe dans ma dépression. Les gens, souvent, dans ces espaces-là, savent ce que je traverse parce que je vais chercher du coaching ou je vais chercher de l'expérience, mais ce qui vient me parler le plus aussi, c'est de rester dans un environnement actif, qui a encore un pied dans le développement, qui a encore une vision sur le futur, parce que je sais qu'un jour, je vais me retrouver là, et d'être parmi ces personnes-là me permet de me rappeler que je suis dans un moment momentané de ralentissement, de dépressurisation, mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus une entrepreneur, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire de l'argent pour le reste de ma vie, ça ne veut pas dire, tu sais, bref. Donc, les cercles d'entrepreneurs, les groupes d'entrepreneurs, les programmes d'entrepreneurs, les masterminds d'entrepreneurs, ça, c'est vraiment important pour moi parce que c'est là aussi qu'on va aller parler de la réalité de chaque personne, même si c'est pas la réalité qu'on voit sur les réseaux sociaux, hein, on va être dans les coulisses avec elle, puis là, les vraies choses sortent. C'est pas le « qu'est-ce que je devrais dire pour que mon audience me fasse confiance, nanana », non, là, c'est vraiment les vraies conversations qu'on commence à avoir, du vrai soutien aussi de la part de personnes qui sont passées par là et qui connaissent la réalité de l'entrepreneuriat et ses difficultés, parce que c'est pas vrai que c'est pas difficile. Puis même souvent, je vois des publications ou des reels que genre « oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile », puis on le dit comme ça un peu en passant, mais de vraiment comprendre, d'être dans les tranchées avec d'autres entrepreneurs qui sont soit passés par là ou qui passent par là, ça a une immense valeur de reconnaissance parce que c'est comme « ok, je suis pas toute seule, je suis pas isolée, c'est pas juste dans ma tête que ça se passe, c'est systémique, ça va prendre du temps, modifier les systèmes, mais ça veut pas dire non plus que je suis... qu'il y a une faille avec moi, que j'ai fait quelque chose de mal, que j'ai mal géré mon entreprise, whatever. » Et naturellement, ben, une fois qu'on commence à sortir de l'état dépressif, comme, tu sais, moi, je vois aussi, je sais aussi quand c'est des faux signaux, c'est juste comme, aujourd'hui, je prends juste un break de ma dépression, puis je m'amuse, parce que ça nous arrive aussi, ou je suis vraiment en rémission, où là, je commence à être plus inspirée, j'ai plus de facilité à faire mes tâches, je sens l'énergie revenir peu à peu, et ça s'accompagne, tu sais, c'est vraiment des effets accumulés de hygiène de vie, bien s'entourer, réfléchir à son énergie cyclique, être capable de parler et avoir beaucoup de compassion et d'empathie pour soi-même. Et... dans le fond, encore une fois, tout ça, l'objectif, éventuellement, c'est d'apprendre de ça, puis de voir, ben, comment est-ce que je peux créer un safe space à travers mon business pour accueillir cette réalité-là, puis pas en faire un problème, puis, tu sais, peut-être qu'après ça, on va pouvoir prendre des décisions comme, OK, j'ai besoin d'engager telle personne, ou de déléguer telle tâche, ou d'arrêter de faire telle offre, ou de transformer tel système de façon à ce que je puisse justement exister dans ces fluctuations sans que ce soit dangereux pour mes finances ou pour mon brand ou pour les actifs que j'ai mis en place aussi avec l'entreprise. Fait que dans le fond, toute cette réflexion aussi qu'on fait sur l'entrepreneuriat conscient, sur le marketing non oppressif, sur bâtir des écosystèmes business durables, ça prend en compte les fluctuations émotionnelles des personnes, la réalité aussi qu'on vit dans un modèle extractif qui est difficile à déprogrammer, parce que c'est tout ce qu'on connaît, mais je trouve que justement de s'arrêter à réfléchir comment notre santé mentale informe les prochaines itérations de notre entreprise, c'est comme ça qu'on va établir le changement, c'est comme ça qu'on va changer le statu quo vers des modèles plus régénératifs, plus durables, plus sains, plus reconnaissants aussi du travail qui est mis de la part de tout un tas d'individus, parce qu'encore une fois, la dépression, souvent, c'est pas juste un problème, c'est aussi des moments où on a de plus en plus de contact avec notre spiritualité, notre relation au monde, notre relation à notre créativité, notre relation à ce qu'on veut laisser comme marque dans le monde. C'est comme un moment où on peut justement aussi s'arrêter pour faire le ménage, pour réfléchir à notre identité et remettre certaines pendules à l'heure. Donc voilà, si vous êtes reconnu dans cette conversation, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Si vous sentez que vous avez eu des difficultés dans les derniers mois ou que vous êtes dans des difficultés en ce moment au niveau de votre, entreprise et de votre santé mentale, il y a certaines ressources qui sont disponibles, pas assez. Je vous encourage vivement à vous faire un petit check-in, commencer à voir autour de vous est-ce qu'il y a des ressources dans peut-être un regroupement entrepreneurial près de chez moi ou commencer à lire sur l'entrepreneuriat et la santé mentale parce que vous allez probablement trouver à travers ça des ressources. Et n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller vous entourer de personnes qui sont capables de comprendre votre réalité et pas juste des personnes qui vont vous dire « Ben là, t'es chanceuse, tu peux faire ton horaire, tu peux faire la sieste, tu peux faire ci, tu peux faire ça », parce qu'il y a beaucoup de déconstruction qui doit être faite au niveau même de nos entreprises pour être capable de laisser de l'espace pour des modèles alternatifs de gérer, d'exister, de faire de l'argent et de rouler ces entreprises-là. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à très vite! Avant de te laisser, je voulais prendre un temps pour t'expliquer un petit peu c'était quoi Terre Fertile, parce que si t'as écouté jusqu'à maintenant, c'est très probable que tu sois une de nos âmes amies, tu fasses partie de notre communauté sans le savoir encore. Terre Fertile, c'est un mentorship de 12 mois que j'ai créé pour accueillir des entrepreneurs qui ne m'ont travaillé pour gagner leur vie, mais vraiment pour créer du sens pour elles, pour leur communauté, pour le monde dans lequel elles vivent. Donc des agents de changement, des personnes qui veulent changer des paradigmes et qui veulent le faire sans compromis sur leur lifestyle, sur leurs revenus, sur la vie qu'elles désirent rêver. Donc, des ambitieuses qui ont à cœur aussi le changement social. Et ça, c'est ce qu'on essaye de construire ensemble dans Terre Fertile. C'est de croire à des espaces d'épanouissement dans lesquels on n'est pas obligé de rentrer dans des moules. On n'est pas obligé de devenir les esclaves d'un système économique qui a été pensé pour l'extraction. Et comment est-ce qu'on peut, à travers le pouvoir qu'on va chercher en devenant entrepreneur, changer justement ces codes-là, autant au micro, donc dans nos familles, dans notre façon de gérer notre quotidien, qu'au macro, donc dans la façon dont on va engager des personnes, créer des écosystèmes de profitabilité et ensuite partager notre médecine, partager nos dons, partager nos talents au reste du monde. Donc Terre Fertile, c'est ce mentorship où on travaille beaucoup de façon non hiérarchique, dans un milieu horizontal, pour aller chercher l'intelligence de chacune des personnes qui en fait partie. C'est un groupe qui est choisi, donc c'est un programme sur candidature pour laisser entrer justement les personnes qui ont envie de développer ce genre d'écosystème-là et qui le font avec conscience. Donc oui, on parle de revenus, oui, on parle de profit, oui, on parle de vente, oui, on parle de productivité, mais selon un angle complètement différent que ce qui est approché dans la majorité des programmes qui sont justement dans ce modèle capitaliste extractif. Donc, si tu te sens appelée, intriguée, curieuse de cet environnement entrepreneurial de développement, je t'invite à envoyer d'abord ta candidature à mtamarque.com/terre-fertile et on pourra commencer la conversation à partir de là et voir si c'est quelque chose que tu veux intégrer. Naturellement, les membres de Terre Fertile font partie de mon plus haut tiers de services, donc c'est eux qui ont accès à toute la gamme de mes produits, y compris les anciens programmes de Money Brand, les masterclass qui sont créés pendant leur temps avec nous et le nouveau contenu qui avait été produit pour Autopoésis, qui est justement axé sur les piliers de richesse qui créent ton entreprise. Donc, n'hésite pas à venir me parler si tu as des questions. Entre-temps, envoie ta candidature, ça t'engage à rien. Et ensuite, tu pourras avoir plus de détails, surtout si c'est le type de communauté que tu cherches.